BPM, élection régionale 2021.
Bienvenue sur BPM si vous venez de nous rejoindre. Les élections régionales auront lieu les 20 et 27 juin prochains. À cette occasion, BPM vous propose jusqu'au 18 juin des émissions spéciales. Les candidats pour les élections régionales de Normandie viendront répondre à nos questions. Aujourd'hui, nous poursuivons avec Timothée Houssin, candidat tête de liste du département de l'Eure sur la liste Faire gagner la Normandie, liste soutenue par le Rassemblement National et menée par Nicolas Bay. Timothée Houssin, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 32 ans, assistant parlementaire auprès de la députée européenne française Annika Bruna. Vous êtes aussi secrétaire départemental en Eure du Rassemblement National et conseiller régional normand sortant.
Tout à fait.
Alors, durant cette émission, nous allons passer en revue votre projet pour la région. Quelles sont vos propositions et vos priorités pour les 6 années à venir? Mais tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez décidé de vous représenter?
Bah écoutez, moi j'ai commencé à faire de la politique dès mes 18 ans parce que j'avais envie de faire changer les choses. Bon, c'était basé à la fois sur des idées nationales et puis l'envie de m'impliquer au niveau local. J'ai porté les couleurs du Rassemblement National à différentes élections en Normandie depuis maintenant plus de 10 ans. J'ai eu l'occasion effectivement dans les dernières années de faire un premier mandat en tant que conseiller régional, de siéger en commission économie, de siéger également dans la commission permanente. Ça m'a permis d'acquérir un certain nombre de connaissances, de rencontrer aussi bon nombre d'acteurs de nos territoires. Je pense que dans ce premier mandat, j'ai acquis un certain nombre d'expériences que je voudrais à nouveau mettre au service des Normands. Cette fois-ci, pourquoi pas dans une équipe de majorité, parce que nous aimerions remporter la région pour pouvoir changer la politique qu'elle mène.
Alors justement, si vous êtes élu, si vous arrivez à la tête de la région, vous avez, on l'a dit, hein, vous êtes assistant parlementaire au niveau européen. Donc j'imagine que ça ne va pas être forcément facile de concilier les deux.
Ah bah, je pense qu'il y a deux types de mandats différents. Il y a les personnes qui sont conseillers régionaux, c'est ce que j'étais là dans la dernière mandature. Et puis quand une région est gagnée par un parti politique, on peut être vice-président de région par exemple et entrer dans l'exécutif. Et effectivement, si c'est la question, même si vous ne l'avez pas posée directement à laquelle vous pensez, effectivement si j'accédais à une place dans l'exécutif par exemple de vice-président de région, je pense que j'arrêterais toute autre activité professionnelle par ailleurs parce que c'est quelque chose qui est prenant à plein temps.
Voilà, pour vous consacrer pleinement
ailleurs,
à la région.
Là, moi, je suis actuellement conseiller régional d'opposition et par conséquent, je ne travaille pas à temps plein, je travaille à 75%, ce qui me permet d'avoir 25% de mon temps à consacrer à la fois à mon mandat et puis, comme je suis le responsable départemental, à la vie, je dirais, du Rassemblement National au sein du département.
Alors, je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet, d'évoquer ensemble vos propositions pour la région. Alors, on va débuter par le ferroviaire, au sujet duquel vous souhaitez engager un bras de fer avec la SNCF et l'État pour que la Normandie, alors je cite votre tract, ne soit plus la grande oubliée des investissements en matière de transport. Et dans le même temps, vous êtes opposé au projet de la ligne nouvelle Paris-Normandie. Important investissement par excellence pourtant. Alors qu'attendez-vous de ce bras de fer?
Et bien en fait, tout ça est lié. Nous estimons que pendant des années, effectivement, la SNCF a relativement peu investi en Normandie si on compare à d'autres régions. Face à cette situation, M. Morin a estimé à juste titre que les trains normands étaient dans un état dégradé, qu'ils n'avaient pas une qualité suffisante pour transporter les voyageurs et être attrayants. Et donc, il a passé un accord avec la SNCF qui a consisté à obtenir un certain nombre de trains neufs, mais avec une contrepartie qui ne nous est pas du tout favorable, qui est en fait de récupérer le déficit des intercités, c'est-à-dire le déficit de la gestion d'un certain nombre de trains qui sont habituellement gérés par la SNCF. Donc en fait, on a eu un petit cadeau, c'est-à-dire un rattrapage de la normale par la SNCF en ayant un certain nombre de nouvelles rames pour la Normandie, mais en contrepartie on récupère le déficit des intercités qui va coûter aux contribuables normands 46 millions d'euros par an. Donc c'est une vision de M. Morin qui est extrêmement court-termiste. À court terme, on a eu des trains neufs mais on va payer 46 millions d'euros par an pour ces fameux trains. Donc à long terme on y est totalement perdant et si on compare notre situation à celle d'autres régions, il est temps que la SNCF remettre de l'argent sur la table, puisqu'aujourd'hui, notamment les voyageurs, je pense, du secteur de Vernon, doivent le constater. On a très souvent des retards de train, on a des problématiques de fiabilité pour une raison simple, c'est qu'on a tout mis dans ces fameux trains récents, mais on a des problèmes d'entretien des voies. Les voies n'ont pas été suffisamment entretenues, et c'est ce qui cause un grand nombre des retards que subissent aujourd'hui les normes. Donc il faut vraiment que la SNCF fasse quelque chose sur ce point. L'accord qu'a passé M. Morin n'est pas convenable. D'ailleurs, d'autres régions ont passé des accords après lui et ont obtenu bien mieux. Donc nous pensons qu'il faut retourner autour de la table avec la SNCF pour qu'elle s'engage à faire un certain nombre de rénovations et d'améliorations des lignes. Je vais prendre un exemple qui est relativement concret. On a aussi en Normandie, et je pense que beaucoup d'habitants de Vernon et de son secteur sont concernés, puisque certains font la navette tous les jours pour des raisons notamment professionnelles vers l'Île-de-France. On a parfois un problème entre les trains normands et les trains franciliens d'accès à la gare Saint-Lazare, qui est compliqué. Donc il y a un investissement conséquent qui va être réalisé, qui s'appelle le saut de mouton, qui consiste en fait à permettre d'enjamber un certain nombre de voies en Île-de-France pour faciliter les trains, l'arrivée des trains normands et donc la fluidification du trafic en gare Saint-Lazare. C'est des travaux qui ont lieu en Île-de-France qui vont servir à la fois les trains normands mais aussi les trains franciliens qui arrivent dans cette même gare. Or, on se retrouve dans une situation où ce projet il va être financé intégralement par la région Normandie. On n'a pas réussi du tout à faire payer l'Île-de-France. Donc là encore, ça nous semble être un grand échec d'Hervé Morin, parce que certes, ça va fluidifier le trafic normand, mais la région Île-de-France, nous estimons qu'elle aurait aussi dû mettre la main à la poche pour la part de trains franciliens qui sont aussi concernés. Et puis vous évoquiez la fameuse ligne nouvelle Paris-Normandie. En fait, c'est une ligne qui consiste en fait pour 12 milliards d'euros à faire gagner 10 minutes de trajet entre Paris et certaines gares de la basse Normandie. Or, ces 12 milliards d'euros, ils seraient beaucoup plus utiles à maintenir un certain nombre de petites lignes et à améliorer le réseau des petites lignes qu'à ce projet qui est en fait pharaonique et qui ne va servir qu'un nombre très limité de personnes par rapport au coût qu'il représente, qui lui est très important.
Alors, je vous propose de rester un instant encore sur la mobilité avec le projet de contournement est de Rouen. Alors, vous souhaitez en concevoir un nouveau moins onéreux. De quelle manière est-ce possible?
Alors, en fait, nous, on est plus retourné sur l'ancien tracé du contournement est de Rouen. Qu'est-ce que propose aujourd'hui le contournement est de Rouen? C'est de faire un contour par l'est de la métropole rouennaise pour la désengorger par un tracé d'autoroutier de 42 km. La problématique, c'est que, étant donné la configuration, il faut faire 8 viaducs. Donc, on est obligé, pour financer cela, de mettre en place un péage. Et la réalité, c'est que, certes, l'entrée sur la métropole rouennaise est engorgée à certaines heures de la journée, aux heures de pointe. Mais avec ce péage, en fait, les usagers, en dehors de l'heure de pointe, ne prendront pas le tracé payant. Donc, nous pensons que ce projet ne sera pas rentable. Et dans les accords qui sont faits entre les sociétés autoroutières et les collectivités locales, quand, en fait, la société autoroutière qui exploite ne s'y retrouve pas, elle se retourne vers la collectivité locale pour obtenir des fonds supplémentaires. Donc on pense que tout ça va nous coûter un argent fou pour en fait être relativement sous-utilisé et puis ça va bétonner énormément de kilomètres notamment dans le département de l'Eure. Par ailleurs, il y a une vraie nécessité de désengorger la région rouennaise aux heures de pointe et donc nous on est assez favorable à un tracé plus court qui va grosso modo du rond-point des Vaches au tunnel de la Grand-Mare, qui était le tracé initial prévu d'ailleurs, parce que c'est un projet qui traîne depuis des décennies et d'ailleurs personne n'arrive à se mettre d'accord au final sur ce tracé.
Mais aujourd'hui, il y a un engagement de la région. Si demain vous êtes à la tête de la région,
oui, mais alors,
cet engagement, il faudra peut-être
l'honorer. Il y a un désengagement du département de l'Eure, il y a un désengagement de la métropole rouennaise, et puis il y a maintenant plus ou moins un désengagement de l'État au vu du fait que les collectivités locales ne se sont pas du tout mises d'accord. Donc on voit mal l'État forcer la métropole rouennaise à réaliser ce type de projet. Donc nous pensons qu'on peut revenir à une échelle plus raisonnable de ce projet, parce que les Rouennais en ont besoin, mais sans arriver à un projet de 42 km qui fait un contournement extrêmement large de Rouen, qui bétonne massivement et qui est beaucoup trop coûteux.
Alors passons maintenant à l'emploi et au développement économique que vous souhaitez soutenir. Quelles sont vos propositions pour y parvenir?
L'emploi, nous pensons qu'il faut remettre à plat un petit peu toute la filière liée à la formation professionnelle. On veut créer en fait un pôle, une agence, si vous voulez, qui puisse mettre en relation la demande d'emploi avec les demandeurs d'emploi. En réalité, la formation aujourd'hui dans la région, il y a énormément de possibilités, mais il y a énormément de formations qui sont données aux Normands et qui ne débouchent pas au final sur un emploi. À l'inverse, quand on va voir les entreprises, on constate qu'il y a énormément d'emplois qui existent et qui ne trouvent pas preneur.
Donc vous voulez améliorer l'adéquation entre les deux.
Il s'agit vraiment de fluidifier les relations entre les entreprises et la formation, peut-être couper certaines formations qui n'ont pas de débouchés et permettre aux gens d'avoir des formations qui vont directement vers l'emploi. Et puis, il faut développer développer peut-être une marque Normandie. On pense que notamment dans tout ce qui est agroalimentaire, la Normandie est connue en France et à l'international, qu'elle a une image un petit peu verte de qualité, de région de qualité. Il faudrait la mettre davantage en avant comme un produit un normand avec une forme de label qu'on pourrait davantage monnayer auprès des clients à la fois en Normandie qui souhaitent consommer normand et puis aussi ailleurs en France et à l'international.
Alors en matière d'environnement, vous souhaitez mettre en place un grand plan de rénovation énergétique. Pouvez-vous nous en préciser le périmètre ?
Alors c'est avant tout un grand plan de rénovation énergétique des bâtiments publics.
Oui.
On peut par ce biais notamment obtenir un certain nombre de fonds européens, c'est-à-dire que la région finance une partie et puis on obtient auprès de l'Union européenne qui a des programmes en la matière d'autres fonds, ce qui nous permet de payer moins entre guillemets pour la rénovation de ces bâtiments publics. C'est une économie qui est faite à la fois pour les occupants mais aussi pour la collectivité puisque bien souvent les logements sociaux et autres, les collectivités locales mettre la main à la poche et puis c'est aussi une démarche économique puisque c'est des rénovations qui sont totalement rentables puisqu'on paye pour des travaux mais on fait des économies d'énergie en face, donc c'est vraiment quelque chose de gagnant-gagnant.
Alors énergie toujours, vous ne voulez plus voir pousser d'éoliennes sur les terres normandes. Au-delà de la volonté, comment est-ce que vous allez y parvenir ?
Alors, je pense qu'on relaye avant tout une préoccupation réelle de la population. On a en Normandie des éoliennes qui poussent à la fois offshore et sur terre. Il y en a maintenant un petit peu partout. Ça dégrade nos paysages, notre cadre de vie. Et puis, ça produit malheureusement une électricité qui est intermittente, c'est-à-dire qu'une éolienne, ça tourne pas quand on a envie qu'elle tourne, ce qui est pas toujours en termes de consommation d'énergie idéal. Et puis, ça produit une énergie qui est coûteuse. Donc nous pensons qu'il y a déjà plutôt trop d'éoliennes, énormément de collectifs locaux se créent contre l'implantation d'éoliennes. Nous souhaitons davantage soutenir le nucléaire, qui est le choix qu'a fait la France depuis des années. Et puis il y a 28 000 emplois quand même en Normandie qui dépendent directement du nucléaire, donc c'est extrêmement important. Et puis il y a des filières d'avenir
qu'il faut promouvoir, notamment
l'hydrogène. Et le groupe Ariane dans le secteur de Vernon est directement concerné. Il y a l'hydrogène, mais il y a aussi tout ce qui est lié à la méthanisation. En fait, c'est un choix de mix énergétique. On fait un moratoire sur l'éolien, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de produire de l'énergie, bien au contraire, on va le faire différemment.
Sur l'hydrogène, vous allez le produire comment ?
Alors, à la fois, il peut y avoir de l'hydrogène vert qui va être nécessaire, mais on peut aussi le faire par le biais des centrales nucléaires aussi.
On le fait comment, l'hydrogène vert ?
Il va servir pour les éoliennes qui sont déjà existantes, on ne va pas forcément démonter les éoliennes existantes. Et puis, il y a d'autres énergies vertes. Par exemple le solaire pour lequel on est tout à fait favorable.
Alors passons maintenant au volet sécurité qui est une préoccupation de chacun de nos concitoyens et ceux qui porteront leur vote sur votre candidature attendent de vous des mesures fortes. Quelles seront-elles ?
Ben nous, ce qu'on constate avant tout, c'est que la région Normandie est une des seules collectivités locales probablement de France qui ne consacre 0 euro à la sécurité. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune dépense liée à la sécurité dans le bilan d'Hervé Morin. Ça nous semble problématique. Aujourd'hui, c'est une préoccupation de tous les Français. Et puis, on assiste à des incivilités, à de la délinquance qui ont tendance à s'étendre maintenant, notamment sur les zones périurbaines et rurales. Les villes principales ont souvent répondu par de la vidéoprotection et puis développement de police municipale, ce qui est moins le cas des petites communes qui n'en ont pas toujours les moyens. Donc, nous, on souhaite les aider à se coordonner pour pouvoir obtenir ces polices municipales ou ces équipements si elles en ont besoin. De la même façon, on peut abonder pour le financement d'équipements pour des gendarmeries ou des commissariats avec un principe simple, c'est 1 euro, 1 euro. C'est-à-dire que si les petites communes veulent créer une police municipale ou intercommunale et qu'ils mettent 1 euro d'investissement dedans, et ben la région vient elle aussi mettre 1 euro pour les aider dans leur projet.
On ne peut pas imaginer une police régionale, par exemple ?
Ça n'existe pas en France, on a plutôt l'échelon police nationale et puis vient se substituer souvent à des manques d'effectifs qui sont un petit peu le fait de la politique qu'ont mené nos adversaires au niveau national pendant des années, des polices municipales ou intercommunales. Le système de police régionale n'existe pas en France et nous on est assez quand même attachés à ce que le régalien reste avant tout quand même la fonction de l'État, donc on ne souhaite pas spécialement mettre en place une police régionale. Par contre on souhaite mettre une police régionale des transports.
Voilà, puisque, on allait y venir.
Les transports c'est une compétence vraiment propre à la région et donc on pourrait se doter de cette police régionale des transports.
Alors police régionale des transports également, vous souhaitez obtenir la gratuité dans les transports régionaux pour une certaine catégorie de personnes.
Oui, tout à fait, pour les forces de l'ordre, oui.
Alors pour quelle raison ?
Bah écoutez, ça fait partie peut-être des avantages qu'on peut leur donner. Ils n'ont pas une profession facile, ils sont souvent sous-payés et ils subissent des manques d'effectifs, des conditions de travail difficiles. C'est un avantage, je dirais, en nature qu'on peut leur offrir à moindre coût. Et puis, bah, on est toujours content potentiellement d'avoir aussi des forces de l'ordre, même s'ils ne sont pas dans le cadre de leur service, qui puissent être dans nos transports publics.
Alors passons maintenant à la politique culturelle que vous souhaitez mener, avec notamment une grande refonte de celle-ci. En faisant cela, quel objectif souhaitez-vous atteindre ?
Bah là, déjà, on souhaite mettre fin à un certain nombre d'éléments culturels politisés qui ont lieu. La gauche, en fait, avait déjà, entre guillemets, sa clientèle culturelle, c'est-à-dire qu'un certain nombre de programmes de la région étaient très orientés, comme par exemple sur des thématiques de soutien aux migrants, des choses comme ça, et la droite n'a pas mis fin à ces politiques. Donc on souhaite, nous, on pense que la région n'a pas à subventionner ça. Par contre, on a énormément de patrimoine normand à mettre en avant, et puis on a tout un côté touristique à développer, parce qu'aujourd'hui, les gens qui viennent en Normandie pour faire du tourisme viennent souvent avant tout pour le week-end. Donc nous, on a pour objectif de réussir à faire une offre plus complète qui permette de favoriser les séjours longs en Normandie, ce qui n'est pas encore assez développé aujourd'hui. Et puis, on pense que l'histoire normande, que ça soit celle du débarquement, mais aussi celle de Jeanne d'Arc, pourquoi pas celle de Roland, est suffisamment riche pour faire, je dirais, un équivalent en fait du Puy du Fou, c'est-à-dire un grand parc à thème sur l'histoire normande qui pourrait là aussi créer des emplois dans la région et puis mettre en valeur notre patrimoine culturel.
Il y a un rapprochement avec les idées de Philippe de Villiers ou,
bah,
ou
c'est juste le modèle du Puy du Fou, il se décline maintenant aussi à l'international.
En Espagne.
La richesse de la région de Normandie en termes historiques et culturels permet de faire un équivalent et à la fois d'intéresser les Normands, mais aussi d'amener une clientèle nationale et internationale et donc de créer aussi de l'emploi pour les Normands.
Alors vous souhaitez, j'ai vu, vous avez évoqué les plages du débarquement, vous souhaitez que ces plages du débarquement soient classées au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Tout à fait.
Pourquoi ?
Bah, ça permet de les protéger, de les valoriser et puis ça permet de rentrer dans le cadre d'un certain nombre de politiques que mène l'UNESCO, notamment financières. Donc ça serait un vrai avantage pour la région. Et puis elle le mérite, c'est quand même des plages qui sont d'intérêt mémoriel mondial.
Alors, je vous propose maintenant, pour finir, sur le temps qu'il nous reste, d'évoquer les finances de la région. Comment prévoyez-vous de gérer le budget ?
Eh ben déjà, nous, on souhaite mettre en place les économies d'échelle qu'Hervé Morin avait promis, parce que Hervé Morin avait dit que la fusion des régions, nous, on était favorables, hein, la fusion de la Basse et de la Haute-Normandie en une seule région Normandie, parce que c'était tout à fait cohérent, même si on a été parfois opposé à des fusions d'autres régions. Et Monsieur Morin nous avait dit, bah, on va faire diminuer ainsi les dépenses de fonctionnement, on va faire des économies d'échelle. Or, ça n'a pas du tout été le cas, c'est-à-dire que ces fameuses dépenses de fonctionnement, qui sont en fait les dépenses du fonctionnement propre de la région, Monsieur Morin nous avait promis qu'elles diminueraient de 50 millions d'euros par an, et à l'inverse, elles ont augmenté de 300 millions d'euros par an. Donc l'économie d'échelle liée à la fusion, elle n'a pas du tout eu lieu, donc il faut réorganiser le fonctionnement de la région pour pouvoir l'obtenir pour les Normands et pour faire un certain nombre d'économies. Puis nous, on est assez inquiets par l'endettement créé par Monsieur Morin, puisque la dette a augmenté de 150 millions durant sa mandature, et on prévoit maintenant, quand on fait des prospectives au niveau de la région, le Conseil régional prévoit d'arriver à une dette d'1,4 milliard à l'horizon 2025, donc ça nous paraît pas du tout sérieux. Nous, on pense mettre fin à un certain nombre de mauvaises dépenses, notamment en matière de communication, ce qui est la monnaie normande qui ne marche pas du tout, des choses comme Normandie pour la paix, qui est en fait un forum qui consiste à réunir dans un entre-soi de petits fours d'anciens ministres des Affaires étrangères et autres pour discuter de la paix dans le monde, ce qui n'est pas du tout la compétence de la région. On compte mettre fin à des subventions abusives que peuvent toucher quelques associations, qu'on te mette fin aussi à des dépenses qui sont faites à l'étranger et qui n'ont pas lieu d'être, pour pouvoir recentrer les dépenses sur les thématiques qu'on a développées depuis tout à l'heure, et puis permettre de faire un certain nombre d'économies qui puissent permettre d'améliorer la situation financière de la région sans augmenter les impôts.
Économies sur l'emploi aussi, j'ai vu 200 postes en moins.
C'est pas de l'emploi, non, c'est l'emploi des personnes employées par la région. C'est pas forcément des suppressions de postes, c'est potentiellement plutôt des non-remplacements de départ en retraite, puisque en fait la fusion des deux anciennes régions est censée amener une économie d'échelle ou au moins une stabilité des effectifs. ce qui n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire perdre leur emploi à un certain nombre de personnes qui travaillent, et on les remercie chaque jour pour la région, mais d'arriver à une meilleure organisation pour avoir des effectifs un peu plus cohérents et pouvoir réutiliser cet argent au service des Normands.
Et dernière question en un mot, les impôts. Qu'est-ce que vous en faites?
On augmente les impôts, on est bien sûr contre toute augmentation. Et puis, si on arrive à être à la tête de la région et à mener l'ensemble des projets dont on vient de parler, on souhaite effectivement à terme pouvoir faire baisser la pression fiscale.
Timothée Houssin, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette émission sera rediffusée à 13h30 et à 19h30. La suite des élections régionales sur BPM, ce sera demain à 7h30 et je recevrai François Ouzillot, candidat tête de liste dans l'Eure de Normandie Terre d'Avenir, liste menée par Laurent Bonnater. Et à 8h, nous recevrons Hervé Morin qui mène la liste Vivre la Normandie avec Hervé Morin. Et je précise enfin que cette émission sera disponible en podcast d'ici quelques minutes sur notre site bpmlaradio.com. Excellente journée à l'écoute des programmes de BPM.